propose qu'on change de sujet, qu'on parle de libellule, qui incarne, pour moi, ça ne mange pas de pain surtout ce matin, une forme de lutte, de résistance. Si elle semble ne pas vivre bien longtemps, depuis la fin du printemps jusqu'au jour d'automne, elle semble, figurez-vous, être dotée aussi de plusieurs vies. Une vie aquatique d'abord, qui dure plusieurs années, de l'œuf abandonné au fond de l'eau jusqu'aux larves qui deviennent de plus en plus grosses. Combien de vies ensuite, quand elle remonte le long d'une tige jusqu'à l'air et la lumière, quand elle s'arrache par le dos de son étrange enveloppe, accrochée à un roseau, quand des ailes lui poussent, quatre ailes diaphanes où le soleil, dit-on, allume des arcs-en-ciel. Elles vous semblent si fragiles, avec leur tête ronde, leurs yeux à multiples facettes, leurs courtes antennes et leur corps allongé, nervuré, ô combien léger. Mais saviez-vous qu'elles sont de redoutables prédatrices et se nourrissent, voraces, de mouches, de papillons et d'araignées? Elles ne paient pas de mine comme ça, les libellules, mais elles vous sauvent des invasions de thans ou de moustiques. Elles protègent votre jardin des invasions de moucherons. Elles ne paient pas de mine comme ça, mais on étudie leur technique de vol depuis des siècles, depuis les croquis de Léonard de Vinci jusqu'aux études des ingénieurs qui conçoivent les drones. Elles ne paient pas de mine, mais de tous nos insectes, elles font figure d'anciens. Elles existent sur Terre depuis 300 millions d'années, et voilà qu'elles sont menacées.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui s'intéresse aux libellules, philosophe du vivant, éthologue. Elle se glisse volontiers dans la peau d'animaux aussi divers que le poulpe, le rat ou l'oiseau, pour nous donner à comprendre leur manière d'habiter le monde et avoir accès à leur intelligence. Elle est l'invitée du Centre Pompidou pour un cycle de rencontres et de conférences qui s'est ouvert fin novembre et qui se terminera en mai 2022. Ça s'appelle « Avec qui venez-vous ? » Bonjour Vinciane Després.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Au fond, que nous raconte une libellule ?
Alors, la libellule, elle nous raconte des histoires de... D'abord, elle nous raconte des histoires... Je vais reprendre un travail qu'avait notamment effectué mon ami l'historien du Moyen-Âge, Pierre-Olivier Dittmar, et qui disait, mais en fait, il y a des insectes low-tech et des insectes high-tech.
Allons donc.
Alors, la libellule, c'est un insecte low-tech, et la mouche, c'est un insecte high-tech. Et alors, ce qu'il appelle low-tech et high-tech, c'était dans la perspective de recherche sur qu'est-ce que ça veut dire des technologies, qu'est-ce que sont les technologies... C'était de dire finalement la libellule c'est un insecte extrêmement archaïque, c'est-à-dire avec une modalité de vol qui est tout à fait surprenante, c'est-à-dire que les ailes sont indépendantes, ce qui lui permet d'ailleurs de faire du surplace ou même des marches arrière.
Comme un petit hélicoptère.
Comme un petit hélicoptère, et donc ce qui a suscité bien sûr pas mal de recherches en biomimétisme, hein, pour essayer de voir mais tiens qu'est-ce qu'on peut apprendre des libellules, alors que la mouche est un instrument du vivant extrêmement sophistiqué, avec des façons de fonctionner qui sont extraordinaires. Et pourtant, la libellule continue à nous fasciner. Alors, moi, pourquoi j'avais choisi cette thématique de la libellule? D'abord parce qu'elle est dans l'actualité de la semaine dernière. Il y a vraiment un mouvement d'alerte pour les libellules, puisqu'on dit qu'en cinquième, des libellules vont disparaître assez rapidement. Et ça me fait penser trois choses. D'abord, premièrement, ça veut dire que ces êtres qui ont tellement persévéré, qui ont fait tellement d'efforts pour continuer à habiter sur cette terre, on est en train de foutre tout ça en l'air.
Au moment de la sortie de votre livre Autobiographie d'un poulpe, Vinciane Després, je vous ai entendu dire qu'à partir du moment où les animaux entrent dans un cycle de disparition, ce qu'ils sont n'a peut-être plus rien à voir avec ce qu'ils ont été. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Alors ça veut dire qu'il y a des transformations, que et le fait même que la disparition opère va aussi créer des transformations. Vous prenez par exemple un animal qui a disparu à la fin du 19e pour les animaux en liberté et au début du 20e pour les derniers spécimens, l'horreur de ce terme, et spécimens, ce qui dit bien un peu notre rapport aussi, hein, nous avons des spécimens, ça veut dire nous considérons que les animaux sont un peu des échantillons, c'est l'ectopiste migrateur ou le pigeon migrateur. Eh bien en fait, les pigeons migrateurs vivent par centaines et centaines et centaines. Ils font des essaims de vol tellement impressionnants que quand ils passaient dans le ciel, disait-on, il y avait des éclipses de soleil qui pouvaient durer parfois plusieurs heures, tellement ils étaient nombreux. Et puis ils ont disparu, diminué. Est-ce qu'on est encore le même ectopiste migrateur quand on vit dans un groupe de 10, là où on a évolué de conserve avec des centaines et des centaines d'individus? Qu'est-ce que ça veut dire voler avec d'autres quand on n'est plus que quelques-uns? Et donc ça veut dire que même la disparition les modifie. Mais de toute façon, quantité de choses les avait modifiées. Et je pense que ce qui s'appliquait aux humains, quand par exemple des gens comme Augustin Berque disent « l'homme se transforme en transformant son milieu », donc il y a une construction, oui. si on veut, ben les animaux, c'est pareil. Ils transforment leur milieu et cette transformation du milieu les transforme en retour.
Mais alors, quelles conséquences collectives pourrait avoir la disparition des libellules ?
Alors là, c'est le deuxième point qui m'intéresse dans cette histoire, outre la beauté des libellules que vous avez vraiment tellement bien souligné, et c'est important, parce que quand on, vous savez, quand on pense insecte archaïque primitif, on l'imagine toujours un peu...
Un dinosaure,
quelque chose de lourd, de triste, pas très coloré, etc. Puis on se rend compte que là, la nature avait déjà donné le meilleur d'elle-même.
C'est vrai.
C'est pas un brouillon, hein, pour le coup, c'est coloré. Et l'autre raison, pour moi, c'est que il y a des alliances possibles. Alors là, je fais référence à, par exemple, des travaux très intéressants de, que ce soit Baptiste Morisot, dont j'admire tant le travail, que ce soit aussi Antoine Chopot et Elina Badou, qui ont sorti un très joli livre, Nous ne sommes pas seuls, et quantité d'autres. C'est qu'avec les libellules, il y a des alliances. Alors, qu'est-ce que j'appellerais une alliance dans le sens où ils le disent? C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que les libellules, sur quoi les libellules nous alertent? Et qu'est-ce qui va se passer? Oui. Par rapport à elle. Ben, ça veut dire qu'elle nous alerte sur la disparition des zones humides. Et les zones humides, c'est vital pour les libellules, ce sont des milieux de vie et de survie, mais c'est aussi vital pour nous. Et d'une certaine manière, si on commence à faire attention aux libellules parce qu'on n'a pas envie qu'elles partent, eh bien, ça veut dire qu'on va peut-être penser aussi qu'il faudra préserver les zones humides. Alors, si les libellules sont bien protégées et qu'il y a une menace de bétonisation ou d'agriculture intensive dans une zone humide, il n'est pas impossible que les libellules, d'une certaine manière, nous mobilisent et nous convoquent pour dire, attention, la zone humide, là, il ne faut pas, et que le fait qu'elle soit présente et si elle est bien protégée pourrait permettre de résister à des projets.
Passionnant, Vinciane Després. Vous venez de convoquer ce terme, cette notion d'alliance. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui, selon vous, la relation qu'on entretient, que l'être humain entretient avec le vivant? Quelle est-elle, cette alliance, pour l'instant, qui nous inquiète forcément?
Alors cette alliance, elle est très disparate, très contradictoire, très hétérogène, parce que je peux pas considérer que l'alliance, par exemple, de la domestication soit encore une alliance quand il s'agit, par exemple, de l'élevage industriel. Là, évidemment, c'est plus une alliance, quoi. Là, c'est de l'exploitation dans la forme la plus violente et la plus brutale. Mais je vais dire, par exemple, la domestication, on peut considérer ça comme une alliance.
D'accord.
Et je trouve que le terme alliance a quelque chose d'intéressant si on enlève tous les côtés un peu romantiques de mariage, etc., ou même de mariage, mais c'est peut-être pas si romantique que ça le mariage. Finalement.
Une autre histoire.
C'est l'idée d'alliance, ça nomme quelque chose qui est de l'ordre d'une relation, qui n'est pas une relation nécessairement d'amitié, qui est une relation qui peut être extrêmement intéressée. Je veux dire, c'est pas désintéressé une relation avec les animaux. Et les animaux, il faut pas croire non plus qu'ils ont des relations désintéressées avec nous quand ils en ont. Mais je veux dire, par exemple, les animaux avec qui on a des relations, les chiens par exemple, ou les chats, ou les corneilles, ou bref, il y a l'opportunisme de part et d'autre. Et c'est intéressant l'opportunisme parce que ça fait des alliances intéressantes, c'est-à-dire avec des êtres intéressés.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment imaginer de nouvelles alliances. Ça passerait par quoi? Par des mots? Par de nouveaux récits?
Alors les nouvelles alliances, ça va passer par quantité de choses. D'abord, d'une part, je pense au travail, par exemple, de Chantal et Bruno Latour, avec tous les ateliers de géoterrestres, les ateliers où atterrir, qui seront d'ailleurs nos invités aussi dans le cycle avec qui venez-vous à Beaubourg. Bon, mais par exemple, il y a une recherche à faire sur la géopathie. Et c'est quoi la géopathie? Je trouve ça très intéressant. C'est quels sont les affects nouveaux que nous ne connaissons pas et que nous avons intérêt à repérer, à collecter et à cultiver par rapport à ce qui est en train de nous arriver.
Qu'est-ce qui
nous arrive? Donc, géopathie, ce sont les affects dans notre rapport avec la Terre, avec le terrestre,
oui.
D'une part. Alors là, il y a des alliances à faire, évidemment. Alors, il y a d'autres types d'alliances qui sont les alliances, justement, que prône, par exemple, quand Baptiste Morisot dit « Nous, le diplomate n'est pas un diplomate du loup ». Ou éventuellement du mouton, ou éventuellement, je sais pas, du crapaud, de la libellule, ce sont des diplomates des liens. Donc ça veut dire que ce sont les liens qu'il faut essayer de préserver. Et donc ça veut dire que, par exemple, vis-à-vis des animaux, bien ce que Baptiste va prôner, ce sont des égards ajustés. On n'a pas les mêmes égards par rapport à un être qui est très proche de nous que par rapport à un être qui n'a peut-être pas autant d'intérêt ou autant de sensibilité.
Au fond, quel animal est-ce que c'est? Un homme?
Un humain, On peut pas le définir parce qu'en fait, comme beaucoup d'animaux, je parle des corbeaux, je parle des chiens, je parle de quantité d'animaux, on peut pas les définir en généralité parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons d'être humain, ne fût-ce par exemple que d'être femme ou homme.
Oui, vous dites d'ailleurs qu'on peut pas dire que l'homme est un animal comme un autre, qu'on se trompe tout le temps parce qu'un animal n'est à proprement parler jamais un animal comme un autre. Mais qu'est-ce que ça suppose justement? Quelle conception du vivant est-ce que ça trahit, cette expression?
Alors dire que l'homme n'est pas un animal comme un autre, ouais. C'est lutter contre l'exceptionnalisme humain en utilisant leur propre argument.
C'est ça.
Parce que quand ils disent le propre de l'homme, c'est il est le seul à rire, faux, il est le seul à avoir profond, tout faux, il reste... Maintenant, il y a encore des gens pour dire qu'il est le seul à avoir conscience de la mort. Mais bon, d'abord, il faut voir si c'est vrai, ça. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense que c'est intéressant. Donc, l'homme n'est pas un animal comme les autres. Eh bien, de dire, oui, bien sûr, ils ont parfaitement raison. C'est très intéressant de dire ça, à condition qu'on dise aussi, vous savez, mais les lions, c'est pas non plus des animaux comme les autres. Et les corneilles, c'est pas encore des animaux comme les autres. Et une fois qu'on a dit ça, à ce moment-là, on devient... Alors, c'est là où je fais une petite marche arrière par rapport à ce que je viens de dire à propos de Baptiste et des égards ajustés, etc. Ce qui est intéressant avec les animaux, c'est la différence. Comme ce qui est intéressant avec les humains. Ce qui nous intéresse, c'est les humains. Souvent, on a tendance à considérer que les alliances se font avec le proche. Mais est-ce que les alliances... Oui, bien sûr, il y a des alliances avec les proches qui sont intéressantes. Elles sont parfois un peu plus fiables parce qu'on peut au moins prévoir leur réaction. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est des alliances avec le très différent parce que c'est ça qui, d'une certaine manière, à la fois enrichit la vie et à la fois peuple le monde d'une très grande diversité qui nous offre des occasions, nous, de bouger. Parce que c'est ça aussi, être vivant, c'est tout le temps en train de changer. Comment changer avec uniquement des semblables à vous? Ça, c'est difficile. Par contre, changer avec des êtres qui ne cessent de vous surprendre, de vous interpeller, de vous dire, mais ça aurait pu être autrement. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi le monde dans lequel tu vis? Il aurait pu être autrement. C'est quoi un monde de libellules? C'est quoi un monde, je sais pas, de bonobo d'éléphant ou quoi que ce soit?
Celle qui est du côté du vivant et de l'alliance dans cette émission, vous la connaissez, Vinciane Després, c'est évidemment la culture et son actualité étrange. Cette actualité qui fait d'elle quand même une belle personne et avec une belle énergie. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 16 décembre?
I think thinking critically is at the heart of anybody transforming their life.
Moins belle la vie. L'écrivaine et militante afro-féministe Bell Hooks est morte hier, elle avait 69 ans. Publiée dès le début des années 80, elle restera comme l'une des grandes penseuses d'un féminisme contemporain, plus inclusif, envisagé à la lumière du genre, de la classe et de la race. Autrice d'une quarantaine d'ouvrages, de l'essai au recueil poétique, elle laisse des textes puissants, avant-gardistes, inspirants, comme « Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme » ou « De la marge au centre, théorie féministe » publiée en France aux éditions Cambourakis, « Rest in peace ».
L'origine du mot calligraphie est d'origine grecque. Cali qui veut dire beau et graphique veut dire dessin.
L'harmonie, la grâce et la beauté, la calligraphie arabe vient d'être intégrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, un statut créé en 2003 par l'ONU pour valoriser les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs à travers le monde. Soutenu par 16 pays, l'intégration de cet art ancestral et symbole du monde arabo-musulman va permettre d'en préserver l'héritage menacé par le développement de la technologie et le déclin de l'écriture à la main.
C'est là qu'on atteint cette notion essentiellement proustienne d'extratemporalité.
Chauffe Marcel, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'auteur de la recherche, le musée Carnavalet à Paris inaugure aujourd'hui Proust, un roman parisien. Une grande exposition pensée pour interroger la place de la ville dans le roman proustien. En tout, 280 œuvres pour explorer les lieux, les ambiances, les architectures à l'origine de son univers littéraire. Clou du spectacle, entre autres peintures, sculptures et photographies, on pourra profiter de la reconstitution de la chambre de Marcel, espace de création de jeunesse de son œuvre. À la bonne heure.
Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre.
We are not alone.
Enfin, tant qu'on en a encore le droit dans les salles obscures en ce moment, outre les blockbusters Spider-Man et les Tuches 4 qui dopent les entrées pour le plus grand bien du 7e art, on se lance sur les traces de la Panthère des Neiges en compagnie de Marie Amiguet, Sylvain Tesson et Vincent Munier, qui était notre invité jeudi dernier. Sur les pentes enneigées du Tibet, l'écrivain et le photographe animalier captent la grâce du vivant et témoignent de sa fragilité dans un documentaire décoiffant de beauté et d'humilité. Pas question de le louper. et la philosophe Vinciane Després, invitée de Boomerang ce matin pour son cycle de rencontres au Centre Pompidou. Et pour revenir sur une approche de la philosophie assez iconoclaste, qui passe par l'étude de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal. Étudiante, votre premier cours d'éthologie, quel choc est-ce que ça a été, Vinciane?
Ah, c'était un choc de voir des gens qui... D'abord, qui racontait des histoires, c'était pas tellement habituel à l'université, parce que c'était des histoires qui à la fois rendaient les animaux très proches de nous, parce qu'ils avaient des histoires comme nous, je découvrais ça avec émerveillement, et à la fois très différentes, parce que c'était des histoires, on était dans des mondes... Écoutez, quand on aime la science-fiction, on comprendra ce que je veux dire. Je veux dire, chaque animal, d'une certaine manière, chaque groupe d'animaux, chaque collectif, chaque milieu, est comme un monde de science-fiction.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire un monde où les règles sont tout à fait différentes, où il y a des façons de s'associer, des façons de faire des enfants, ou de ne pas en faire, de créer des relations de parenté, d'alliance et tout. Et donc, j'avais des mondes qui s'offraient à moi, et moi qui adorais lire et qui adorais qu'on me raconte des histoires, c'était déjà une première merveille. Et puis, la deuxième merveille, c'était l'amour de ces éthologistes pour leurs animaux.
Pour autant, c'était pas vraiment considéré comme de la philosophie.
Ah non, mais alors là, je peux vous dire que c'était pas du tout de la philosophie. Et quand moi-même, j'ai dit, mais on peut faire de la philosophie sur l'éthologie, on fait bien de la philosophie sur de la physique, enfin ce qu'on appelle la philosophie des sciences, de la philosophie sur la biologie, donc on va faire bien sûr de la philosophie sur l'éthologie. Je me suis entendu dire combien de fois, mais attendez, mais c'est pas de la philosophie.
Ça ne vous a jamais découragé?
Alors, ça aurait pu me décourager... mais à un certain point de marginalisation, vous n'êtes plus marginal, vous êtes à côté de toute façon, hein, parce que la marge, elle a quand même une limite. Mais en fait, ça, je dis ça un peu en plaisantant, ce qui veut dire surtout que ça m'a offert la grande liberté de ne plus me préoccuper de la vie des autres. Mais ce qui s'est passé, c'est la rencontre avec Bruno Latour et Isabelle Stengers, qui m'ont dit, mais si, ce que tu fais n'est pas inintéressant.
Et ce qui a donné lieu à théoriser votre premier livre, paru il y a 25 ans, et qui porte sur un oiseau qui s'appelle le cratérope écaillé. Cet oiseau, qu'est-ce qu'il avait de si spécial?
Alors, d'abord, il dansait. Alors, il n'est pas le seul oiseau à danser. Ça, je peux vous dire qu'il y a des couples, les grébupés, j'avais été les observer.
C'est intéressant quand même.
Mais alors, donc, j'avais déjà vu des deux oiseaux dansant en couple. Hein. Ça fait partie des rituels de pariade. On appelle pariade, donc, les cérémonies, notamment conjugales entre les grébupés et bien d'autres. Mais là, il dansait. Alors, c'est pas seulement tout. Donc, c'est un oiseau qui vit en Israël, mais il ne vit pas qu'en Israël. Vous en pouvez en trouver aussi dans tout. Vous pouvez en trouver en Algérie. Vous pouvez en trouver dans pas mal d'endroits. Donc, le cratérope écaillé, ou babbler en anglais.
Il ne se comporte pas comme les autres.
Et il ne se comporte pas comme les autres parce qu'en fait, ils vivent en groupe où la compétition intense qui règne entre eux est une compétition pour être altruiste.
Ah, c'est France Inter.
Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le cratérope n'a qu'une idée en tête. Comment puis-je épater les autres en manifestant de l'altruisme? Donc, on se fait des cadeaux, donc on trouve un petit vermisseau. Tiens, voilà Gaspard, je te donne mon petit vermisseau. Bref, etc. Et donc, on découvre, d'après donc l'ornithologue qui les étudiait depuis des années et des années, qu'en fait, la compétition pour l'altruisme avait été la réponse que les cratéropes avaient inventée pour résoudre le dilemme entre la nécessité d'être en compétition pour monter dans la hiérarchie et la nécessité de coopérer parce que la coopération assure la stabilité et le bien-être du groupe. Comment est-ce qu'on réunit le besoin de coopérer, donc de ménager les eaux, de ne pas entrer en conflit pour un oui et pour un non, et le besoin de se faire remarquer, d'avoir du prestige pour monter dans la hiérarchie? Et Zahavi avait dit, les cratéropes ont inventé une méthode extraordinaire que les corbeaux, d'ailleurs, semblerait-il, ont inventé à certains égards aussi. C'est-à-dire, on entre en compétition en se montrant altruiste, parce que le fait d'être altruiste montre que vous avez, d'une certaine manière, c'est ce qui s'appelle un signal honnête ou un signal fiable. Si vous donnez, c'est que vous avez les moyens de donner. Si vous défendez les autres contre un prédateur, ça veut dire que vous êtes fortiche. Si vous faites ceci, ça veut dire que vous êtes curieux. Donc, si vous êtes curieux, ça veut dire que vous êtes audacieux. Et donc, l'augmentation du prestige chez les cratéropes écaillés, je trouvais que ça paraît bizarre. On a d'ailleurs cru que j'avais inventé cet oiseau. Maintenant, il y a assez de preuves de son existence. Et c'était pour moi, à l'époque, vous imaginez, on est début des années 90, je découvre cet oiseau et je me dis, c'est un primate volant.
Vinciane Després, il se passe quelque chose quand même depuis une dizaine d'années. Le regard sur tout ce qui touche au vivant est en train de changer. Qu'est-ce que le confinement, par exemple, a contribué à faire évoluer dans notre conception, dans notre rapport au vivant?
J'ai eu le sentiment, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Alors, il faut faire quand même la différence. C'est surtout pour les citadins que cette histoire est arrivée, parce que les gens qui vivent à la campagne, ils n'ont pas attendu le confinement pour savoir qu'il y avait des animaux autour d'eux. Ou alors vraiment, se poser la question.
Oui, je me souviens de dire à mon père qui habite en Auvergne, j'ai vu un rat et il me riait au nez, littéralement au téléphone. Effectivement.
Oui, j'imagine. Voilà. Et donc, en fait, les citadins ont redécouvert qu'il existait d'autres vivants que les seuls humains dans les villes. Alors ces autres vivants avaient déjà été là. Il faut pas exagérer. Sauf que les vivants, ils ont compris très vite que les humains sont des gens dangereux et encombrants, pas toujours sympathiques, qu'ils ont des automobiles qui peuvent vraiment faire des gros dégâts, qu'ils ont aussi, qu'ils ont aussi des cordons sanitaires un peu partout autour d'eux. Ce qui veut dire que les vivants, en général, se sont arrangés pour occuper les espaces quand nous n'étions pas là. Et donc quand on n'encombrait pas. Donc par exemple, beaucoup d'espèces sont devenues nocturnes. Alors que dans d'autres régions, par exemple, elles vont rester diurnes, simplement pour occuper des espaces et du temps dans lequel on n'est pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement ? Eh ben, ils ont découvert que la voie était libre. Et donc, soit ils sont venus de l'extérieur, ils ont commencé à envahir les villes, parce qu'il y a plein de choses à y faire qui sont très intéressantes. Il n'y a pas que nous qui pensons que les villes ont certains intérêts. Ou bien, simplement, ils sont sortis de leur tanière ou de leur petit terrier.
Pour vous, Vinciane Després, quel est le virus qui nous menace, qui nous ronge, le virus contre lequel il s'agirait de lutter et par quoi ça pourrait passer ?
Alors, quel serait le virus qui nous menace? Alors, il y a deux virus qui nous menacent, je pense. Le premier virus, c'est le virus de la sidération. Et de la sidération par rapport à l'ampleur de la catastrophe qui est en train. Donc, quand on pose la question, qu'est-ce qui nous arrive? Ça veut à la fois dire que c'est déjà arrivé et que c'est encore en train d'arriver.
Oui.
Je pense que le virus de la sidération, c'est un virus qui nous paralyse terriblement. On ne sait plus. Et ça, ça fait partie des très jolies recherches, notamment de Bruno et Chantal Latour. C'est de voir comment est-ce qu'on va lutter contre cette sidération. Comment est-ce qu'on va aussi repolitiser cette question de cette urgence climatique, cette catastrophe qui est en train de se produire.
Et l'autre virus?
Alors, l'autre virus, vous savez, c'est pas très, très compliqué, c'est le virus du capitalisme, donc c'est le virus de la manière dont ce monde est en train, depuis des générations et des siècles et des siècles, est en train de s'organiser de façon à ce qu'une toute petite partie de l'humanité soit en train d'extorquer, d'exploiter tout ce qui les entoure.
On va reparler, évidemment, de tout cela, d'imaginaire, d'animaux, de poésie. Juste après un titre, vous l'entendez, Animal, The Love Cats, par les Cure, en 1983, sur l'album Japanese Whispers. Vous êtes sur France Inter, avec Vinciane Després. Vous écoutez Boomerang, évidemment. Pretty.
Augustin Trapenard.
Allez, moins chaque oiseau, quelque part entre la merlette rieuse, l'aigrette altière ou la chouette savante, la lunette docte cerclée de noir, l'œil alerte et le plumage camouflage. Elle vient de me dire, vous allez me décrire, je suis habillé comme un moine ou comme un curé, la philosophe Vinciane Després, invitée de Boomerang ce matin pour parler du vivant et de ce que nous apprennent les animaux. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les oiseaux. Quand, pour la première fois, avez-vous été, Vinciane, bouleversée par le chant d'un oiseau? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, il y a eu quelques, alors, j'avais déjà été bouleversée par un chant d'oiseau quand j'étais petite. Je dois dire que les pigeons ramiers étaient dans le jardin de chez mes parents. On avait un très très joli jardin. Et j'avais le sentiment que quand ils chantaient, c'est que le printemps était là. Et je prétendais mordicus à ma mère. Ils ont chanté, le printemps arrive, parce que j'avais une espèce de pensée magique qui faisait qu'en fait, quand on dit une erreur de Bedel ne fait pas le printemps, moi je pensais que les pigeons ramiers faisaient le printemps. Il y avait une espèce de convocation du printemps par le pigeon ramier. J'ai appris entre temps qu'ils chantaient même en hiver, mais je les entendais pas.
Puis après, il y a eu le maire.
Et puis après, il y a eu le merle, et ça, c'est quelques années après. C'est un jour, j'ai entendu un merle chanter, j'ai été vraiment très, très bouleversée par la beauté du chant. J'avais jamais entendu quelque chose d'aussi compliqué qu'un chant, aussi proche de la parole. Et je découvrais, alors que j'avais déjà entendu des oiseaux chanter, mais le merle, il a une façon, il a une présence sur scène. Voilà, c'est ça. Il a une présence sur la scène sonore qui faisait qu'il était, mais c'était pas possible de ne pas l'entendre et de ne pas l'entendre vraiment comme s'il avait eu des micros directement branchés dans ma chambre. Et je me suis dit, et pourquoi c'était important? D'abord parce que j'étais bouleversée, vraiment bouleversée. Et en plus, je me suis dit, mais comme philosophe, je fais quoi avec ça?
Quelle question je me pose?
Voilà. Et comment je mets ça au travail de la pensée? C'est trop important ce qui vient d'arriver. C'est que je viens de comprendre que ce merle, il y a quelque chose de deep. Chanter comme il chante, il y a quelque chose d'hyper important, visiblement, qui le taraude. Il est habité, ce merle. Comment est-ce que je vais... Qu'est-ce que je fais avec le fait qu'un autre être vient de me faire comprendre, sans aucune intention de me faire comprendre quoi que ce soit, parce que ce chant s'adressait pas à moi, de toute évidence. Qu'est-ce que je fais avec le fait que d'autres êtres aient des sentiments d'importance qui puissent me bouleverser comme ça?
À quoi ressemble le monde quand on l'habite en oiseau, Vinciane Després, pour reprendre le titre de l'un de vos livres, titre qui, je crois, vous avez été soufflé par Baptiste Morisot.
Ah oui, non, pas seulement il me l'a été soufflé, mais c'est lui qui me l'a donné. Il a carrément trouvé ce que je disais.
Alors, à quoi ressemble le monde?
Alors, à quoi se ressemble le monde quand on habite en oiseau? Je pense que là, c'est... Bon, d'abord, il faudrait penser le monde comme Jean-Christophe Bailly. Qu'est-ce que Jean-Christophe Bailly nous dirait ici? Parce que là, j'ai besoin des écrivains pour m'aider. Et j'ai besoin de ceux qui savent vraiment écrire. Moi, j'apprends. Je suis un apprenti en termes d'écriture. Alors, j'ai besoin de Jean-Christophe Bailly qui me dira, par exemple, « Ah mais attends, mais tu n'as pas parlé du vol. » Et c'est vrai. Un monde en oiseau, c'est un monde, d'abord, qui est en trois dimensions. Alors que je prétends que les oiseaux sont les animaux les plus terrestres que je connais, ils sont terrestres, fusque parce qu'ils habitent, parce qu'ils relient le ciel et la terre, parce qu'ils relient exactement les différentes couches qui fabriquent un monde vertical en quelque sorte. Alors qu'est-ce que c'est que vivre dans un monde où le vol est non seulement une manière de se déplacer, mais une manière de danser, une manière de sentir l'atmosphère, une manière peut-être de dire des choses aux autres, de crier des sillages, de découvrir les courants ascendants, d'apprivoiser l'atmosphère. Puis qu'est-ce que c'est aussi être territorial pour certains oiseaux, parce que tous ne le sont pas. Et ça veut dire quoi être territorial? Et puis on découvre qu'il y a un monde que les oiseaux, ce qui fait un espace pour eux, il y a un espace en trois dimensions, et bien ce qui fait un territoire, c'est un lieu de haute socialité. Et ça aussi, ça veut dire que ce que nous appelons, nous, un espace dont on serait petit propriétaire. Pour eux, c'est pas du tout cette question de propriété.
C'est passionnant. En fait, ce que vous nous racontez, ce que vous nous dites, c'est que notre espace de vie est toujours déjà un espace en partage. Et c'est un texte qui répond en partie à cette question que vous nous avez écrite ce matin et que j'aimerais que vous nous lisiez, si vous le voulez bien. Vinciane Després, un texte qui s'adresse à votre chienne, Alba.
Ma très chère Alba, tu ne liras évidemment pas cette lettre, l'écriture n'étant qu'un des innombrables points de divergence entre nos manières d'être et de communiquer. Non que tu n'écrives pas, tu le fais à ta manière de chienne, mais je ne la comprends pas plus que tu ne comprends la mienne. Et ce n'est là qu'une des multiples différences de nos vitalités expressives, comme le dit Donna Haraway. Je chéris chacune de ces différences entre nous, ces différences qui, par un très beau paradoxe, nous séparent et nous rendent proches, nous font nous sentir différentes l'une de l'autre et être différentes de ce que nous étions avant de nous connaître. Parce que tu es une chienne, tu n'as pas pu m'accompagner hier à Beaubourg à l'une des rencontres autour du terme « Avec qui venez-vous ?» Ben, c'est pas ta place. Mais c'est quoi la place des animaux ? En choisissant cette formule d'invitation « Avec qui venez-vous ?», Je ne savais pas que c'est le problème de la place qui allait de manière récurrente se poser, que le fait de ne pas être humain ne cessait d'être sanctionné par le geste de se faire remettre à sa place, ce qui précisément veut dire se faire déplacer ailleurs. Les agents d'accueil m'ont raconté que quantité d'animaux sont en fait entrés dans mon bourg, mais toujours clandestinement, en profitant des brèches dans les murs ou dans la sécurité. Et le constat est le même partout. Il y a de moins en moins de place pour d'autres êtres que nous. Notre monde devient un monde d'entre nous, comme on dit un monde d'entre soi. L'historien du Moyen-Âge, Pierre-Olivier Dittmar, m'a rappelé que le paradis, enfin je parle ici de la destination finale, était un lieu sans animaux. Je crois, ma chère Alba, que notre monde ressemble de plus en plus au paradis. En fait, on y est presque, nous n'aurons pas besoin d'être morts pour y accéder. Peut-être sommes-nous déjà presque un peu morts. Alors je dois te remercier, Alba, comme on remerciera tous les clandestins de Beaubourg, araignées, pigeons, souris, moustiques, bactéries, champignons, de nous avoir gardés pour un temps encore vivants.
Quel beau texte, Vinciane Després. Comment les animaux ont-ils fini par être réduits à des êtres clandestins? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il se passe que, peut-être qu'en effet, c'est pas, ils n'ont pas leur place partout, mais la manière dont on assigne les places est une manière qui est parfois d'une extrême violence et d'une extrême, je veux dire, qui relève pratiquement des techniques de l'hygiénisation de nos vies et de déterminer. Alors, il y a même le problème de... Vous savez, à un moment donné, dans ce texte, je m'étais dit, tiens, mais comment on fait une place aux animaux? Et je me suis rendu compte que même dire on fait une place, c'était déjà très violent. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on considère qu'on est déjà chez nous et qu'en fait, ils seraient nos invités alors qu'en fait, ils étaient là. Bien avant nous.
Dans ce texte, qui est une célébration du vivant, somme toute, vous écrivez peut-être « Sommes-nous déjà presque morts ?» C'est ce que vous pensez?
Alors, je pense qu'il y a des côtés qui sont morts en nous, c'est vrai. Que je pense que le manque de rapport avec d'autres que nous, et je parle de la différence, et que la différence, elle commence déjà au sein des humains. C'est un texte, en fait, qui dit « Mais attention, aller chercher chez les animaux ce qui est le plus proche de nous, ce qui est le plus semblable, c'est peut-être pas une très bonne idée. Ce qui est intéressant, c'est ce qui éveille la curiosité, c'est de vivre avec du très différent. Et ça vaut tant pour les animaux que pour les humains.
Alors,
et on est un peu mort quand on est pas en contact avec du très différent.
Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Quand diable vous sentez-vous la plus vivante, Vinciane Després?
Ah, moi, je me sens très vivante quand je suis, quand je suis avec des amis qui me ressemblent pas du tout, parce qu'ils me gardent l'esprit en éveil, parce que je les comprends pas du tout. Je me dis, mais ils fonctionnent pas comme moi. Qu'est-ce qui va encore arriver? Je suis très vivante quand je suis avec ma chienne Alba, évidemment, parce qu'elle continue à me surprendre, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, quand elle décide que ça prend l'allure d'un fight, c'est toujours très désagréable pour moi. Et je suis très vivante quand je fais de la recherche. Évidemment, je suis très vivante quand je découvre des tas de choses que je ne connaissais pas.
Et quand vous êtes avec nous, merci tellement, Vinciane Després, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'avec qui venez-vous? Votre cycle de conférences et de rencontres au Centre Pompidou, c'est jusqu'au mois de mai. Prochain rendez-vous le 14 janvier. Merci pour cette parole salutaire, nécessaire et belle. Je dois dire en particulier ce matin.